nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la télémédecine, voilà un nom barbare qui n'est pas encore entré dans le dictionnaire de l'Académie française, mais qui est devenu à la mode depuis quelques années et encore plus aujourd'hui, depuis que le 21 octobre 2010 est paru dans le journal officiel un décret autorisant les activités médicales de téléconsultation, télé-expertise ou encore télésurveillance médicale. La télémédecine, qui était jusqu'alors cantonnée à des conseils, va devenir un outil permettant de résoudre en partie la problématique de pénurie de médecins spécialistes dans certains territoires, de favoriser au maximum l'hospitalisation à domicile et de réaliser des économies dans le domaine de la santé. Quels sont les espoirs et les limites de cette télémédecine qui semble nouvelle pour nous, mais qui est déjà appliquée chez nos voisins suisses? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités en studio, Guylaine Alajouanine, Guy Valencien, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Guylaine Alajouanine, pour vous présenter, vous êtes membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, fondatrice de la FISA, force d'intervention sanitaire satellitaire autoportée, experte reconnue de la télémédecine et présidente de la commission Galien créée en 2008 au Conseil français de la télésanté. Et Guy Valencien, on vous connaît, vous venez régulièrement maintenant au studio de Canal Académie, vous êtes urologue, professeur à l'Université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de chirurgie, correspondant de l'Académie nationale de médecine et secrétaire général du Conseil national de la chirurgie. Alors vous êtes tous les deux fervents défenseurs de la télémédecine, Guy Valencien parce que vous croyez résolument que la pratique de la médecine doit évoluer, Guylaine Alajouanine, vous parlez d'une révolution du soigné. Pouvez-vous rapidement nous dire tous les deux quels sont les enjeux de cette télémédecine avant que l'on entre dans le vif du sujet? Guylaine Alajouanine pour commencer.
Vous avez déjà tout dit presque. En tout cas, la télémédecine, ce n'est pas la médecine à la télé. La télémédecine, c'est faire voyager les informations, les données médicales plutôt que les patients. C'est un outil organisationnel d'amélioration de la qualité des soins, et j'insiste, qualité des soins, par la mutualisation des connaissances. Alors, les enjeux. D'abord, peut-être un prérequis. La télémédecine ne remplacera jamais l'examen clinique. Clinique, cliné, du grec lit, au pied du lit, au chevet du patient. La relation soignant-soigné est extrêmement importante, mais la télémédecine, il faut bien oser le dire, c'est peut-être pas la panacée, mais ça va devenir indispensable. Et indispensable pour, je dirais, trois choses qu'on voit tout de suite en faisceau, je dirais, où on a une désertification sanitaire, non pas par le manque de médecins, on ose dire manque de médecins, on a 210 000 médecins en France, mais par, c'est vrai, une mauvaise répartition des médecins. Deux, le vieillissement des populations. Simplement en 2050, plus de 50% de la population aura plus de 50 ans. Une personne sur cinq sera dépendante et financier. Le trou vacial de la sécurité sociale dit tout. La télémédecine, ça rapporte.
Guy Valencien, pour porter une précision sur ce point, les enjeux rapidement de cette télémédecine que vous prenez aussi à bras-le-corps pour mettre en avant.
Mais c'est simplement une technique, hein, pas plus. Mais c'est une technique qui change beaucoup de choses dans la mesure où on peut aller dans la ferme la plus petite du hameau le plus isolé de France, avec ces moyens-là, et soigner les gens les plus âgés et souvent les plus pauvres qui sont dans ces petits villages. L'intérêt entre médecins et patients, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de rupture du lien lorsqu'on est en télémédecine. Je le sais par les exemples que l'on a concrets dans le service. On a créé un dossier de télémédecine pour les suivis des cancéreux, des malades atteints d'un cancer de la prostate, ou pour d'autres actions que l'on mène. Et la relation est très forte à deux niveaux. Soit par Internet, et vous avez, pour donner un exemple, vous avez des hommes qui n'osent pas dire « je t'aime » à une femme et qui vont lui écrire. Et donc, il y a une relation extraordinaire par l'écrit Internet, très forte, très différente, mais très forte. Quand on suit des malades qui ont des problèmes sérieux, fonctionnels sérieux, c'est incroyable comme Internet n'est pas un système qui édulcore la relation, bien au contraire. Et deuxièmement, l'image, quand on peut avoir l'image, c'est encore mieux. J'étais l'autre jour à l'école, qui est tout à côté, la rue des Saints-Pères, à la faculté de médecine, et j'étais en relation avec la maison de santé de Blétrance, où le docteur Mazouet avait deux malades présents avec lui. et qui avaient des problèmes et qui demandaient un deuxième avis. Donc j'étais à Paris et eux à 500 km de distance et on a pu échanger. J'ai vu les malades sur l'écran de mon ordinateur. Donc c'est d'une simplicité époustouflante et d'une efficacité encore plus remarquable pour un prix extrêmement modique. Ça ne coûte pas cher, la télémédecine.
Alors, nous allons y revenir. Téléconsultation, téléexpertise, hein, vous venez de l'aborder.
Oui, entre experts, bien sûr, entre experts.
On va y revenir, télésanté. La télémédecine, côté patient, ça s'adresse aux personnes uniquement isolées, uniquement aux personnes âgées.
Il y a maintenant pratiquement une quinzaine d'années, quand on faisait les premières expériences, en fait, surtout de télédiagnostic, de télééchographie, en particulier dans les zones de solidarité prioritaire. Déjà, à ce moment-là, on rapprochait les hommes avec ces techniques. Ceci pour conforter ce que vient dire le professeur Valencia. Même, chose un peu exceptionnelle, il y a des femmes qui acceptaient qu'on fasse des échographies à distance pour savoir quel était le problème au niveau de leur bébé, par exemple. Donc, vous voyez, une évolution, c'est un mieux-être pour les patients. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut arrêter de dire que la télémédecine, ça coûte. Simplement, vous prenez le bulletin 109 de l'IRDES, qui est l'Institut de recherche et documentation des économies de santé. Dans ce bulletin 109, il est dit que si on ouvrait simplement, 500 places en hospitalisation à domicile par département, donc soit 50 000 en France, qui est quand même rien à côté d'une population de près de 70 millions maintenant, on ferait des économies d'1,7 milliard. Donc, pour 10 000, on est à 350 millions. Donc 50 000, vous voyez bien, ça fait 1,7 milliard. À l'heure actuelle, je vous le dis, on peut, en France, mailler le territoire de façon à ce que n'importe où, dans n'importe quel endroit, même dans les endroits les plus isolés, on puisse répondre à la question angoissante « Mais qu'est-ce que j'ai pour le patient ?» et pour le praticien « Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là »
Alors, venons-en au point que regroupe la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise et la télésanté. La téléconsultation, Guy Valencien, ça consiste à faire une consultation avec un médecin par téléphone et par Internet.
Non, oui, c'est ce que je vous ai dit, avec éventuellement l'image, c'est toujours agréable pour un malade. Hein, la téléconsultation, c'est ça, d'avoir celui ou celle qui, professionnellement, est en face de lui. C'est quand même mieux que de ne pas avoir de visage.
Mais cela existe déjà.
Oui,
certains médecins
on n'invente rien, vous savez. Mais attendez, vous savez bien, mais tous les hommes et femmes de médias, depuis toujours, vous télétransmettez, les moins de journaux télévisés, on a le correspondant à Karachi, où vous voulez, bref. Ça, c'est pas un problème. Simplement, l'acte médical était considéré comme un acte uniquement en présence physique du malade. Ça, c'est fini. L'acte va pouvoir être enfin télétransmis, c'est-à-dire qu'on pourra être à distance et être en relation. Donc on va pouvoir l'honorer. Le problème, c'est que ça ne s'est pas développé parce que ce n'était pas payé. Il faut bien payer ces expertises-là. Et c'est facile parce que la traçabilité est tout à fait exemplaire, puisqu'on a l'heure de début, l'heure de fin, on a même, peut même avoir les textes. Donc il n'y a pas de triche. Je veux dire, c'est beaucoup plus clair, à la limite, qu'une consultation. On peut parler de toute autre chose que de médecine à un malade.
Donc cette téléconsultation sera payante.
Ah bah bien sûr, mais si vous voulez la développer, il faut que ça soit payant. Sinon, comment voulez-vous ? C'est de l'expertise que vous transmettez, vous engagez votre responsabilité, ça doit être honoré. C'est ce qui va être fait, c'est le cadre de la loi.
Pour autant, il me semble, mais arrêtez-moi si je me trompe, que l'Ordre des médecins autorise la consultation virtuelle, mais s'oppose encore à la délivrance de prescriptions à distance.
Ça viendra, c'est laisser le temps faire. Ça va venir, ça n'a pas de sens non plus. Je veux dire, tout est préparé, ça se fera comme ça, avec en plus des assistants médicaux qui pourront represcrire demain dans des cadres bien déterminés. Tout ça, c'est une évolution de la profession salutaire, mais qui crée des froissements, des bruits d'angle qui s'apaiseront au fur et à mesure.
Je rejoins parfaitement ce que vous venez de dire. À l'heure actuelle, le train est en marche, je dirais même qu'il va s'accélérer. Et ce décret d'application, je dirais dans le 63-16 de 1 à 11, va permettre cette évolution, c'est bien certain.
Et qui va mettre en place ces téléconsultations payantes ? Ça va être la Sécurité sociale ? Ça sera des organismes privés ? Comment ça va se faire ?
Mettre en place rembourser ou mettre en place ?
Oui, mettre des consultations payantes.
Ah non, mais attendez, vous avez l'organisation du système, laissez les acteurs faire. On ne va pas commencer à faire un dossier national, système de télétransmission. Regardez, le dossier déjà médical partagé est un bide total. Donc arrêtons de vouloir faire du national, alors que ce sont des liaisons qui auront peut-être lieu dans les régions d'un territoire de santé, un CHU ou autre. Donc laissez les acteurs faire. On a tous les outils. Ça ne coûte rien un ordinateur, mais ça ne coûte rien une micro, une webcam, ça coûte 50 euros. Donc l'achat, l'investissement est faible. Alors après ça, bien sûr, le remboursement, ce seront les caisses, enfin, les agences régionales de santé qui ont intégré les caisses. Bah oui.
Alors, venons-en à un autre point, si vous voulez bien, puisque l'émission tourne. La télé-expertise, pour expliquer ça à nos auditeurs, c'est une sorte de forum où les médecins généralistes pourraient poser des questions.
Comme le dit expertise, ça permet à un professionnel médical de solliciter l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux. En fait, c'est l'échange entre médecins pour arrêter une thérapie.
Donc c'est une sorte de forum sur Internet, par exemple, où un médecin généraliste va pouvoir consulter un médecin spécialiste.
Une seule, entre un médecin et un autre, ou par exemple, entre un médecin et une infirmière, un médecin kinésithérapeute.
Un professionnel de santé.
C'est entre professionnels de santé. Sur les forums, il faut se méfier, on ne fait plus que ça maintenant, des réunions de concertation
et puis
partout.
Des rapports.
Et des rapports, donc arrêtons. Mais quand quelqu'un a une question à poser, il peut faire appel à un ou une d'une autre profession, ou de la même profession du reste, pour avis.
Mais les territoires, à l'heure actuelle, vont, je dirais, se positionner en HS2, en haute sécurité santé, comme vous le savez, donc ce qui va répondre à la troisième dimension du développement durable. Et donc, ce qui est en train d'avancer, si l'on peut dire, c'est vraiment de mailler le territoire pour, dans un plan, j'oserais dire, quinquennal de haute sécurité santé, c'est-à-dire qu'on va revenir aux régions, ça vient des régions, on va faire... J'oserais dire de l'indépendance dans l'interdépendance. Il faut qu'au niveau national, naturellement, qu'il y ait de l'interopérabilité, c'est-à-dire que tout le monde se comprenne, qu'il y ait un langage commun. Mais naturellement, il faut respecter les microclimats, donc considérer les microclimats. Et il faut oser le dire, les politiques ont intérêt à ce que leur territoire soit en haute sécurité santé. Demain, ils feront dans leur territoire, comme ils font, j'oserais dire, pour les villes fleuries, ils auront 3-4 caducées parce qu'ils auront fait sur leur territoire ce qu'il fallait faire pour amener du mieux existant à leurs citoyens. Et par exemple, aussi bien pour les handicapés d'avoir fait en sorte que les trottoirs puissent leur permettre de passer facilement, de même que leurs foyers pour personnes âgées seront équipés d'outils qui permettent de faire du diagnostic à distance dans les endroits les plus isolés.
Mais là encore, même question, je m'adresse cette fois-ci à Guy Valencien. Ces médecins généralistes ou professionnels de santé qui vont s'adresser à des spécialistes en posant leurs questions parce qu'ils ont un patient face à eux, c'est aussi autant de patients qui ne vont pas aller voir directement ces spécialistes. Alors est-ce qu'on envisage de la même manière une rémunération, une compensation pour ces médecins spécialistes qui sont consultés par d'autres professionnels?
Bien sûr que le médecin spécialiste, il donne un avis, il s'engage. Cela dit, vous savez, l'évolution va se faire de la façon suivante. À terme, nous serons à 75% de généralistes et 25% de spécialistes. Il y a trop de spécialistes dans ce pays. Il n'y a pas assez de généralistes qui sont formés vraiment à la médecine générale. C'est un vrai changement qu'il faut impulser. Là-dessus, je reprends ce que disait Attali dans son rapport, et je suis d'accord avec la Commission. Il faut régler ça par 3/4 de généralistes, avec tous les professionnels de santé autres réunis dans ces maisons de santé dont on parle tant aujourd'hui, parce que le médecin isolé est mort, c'est fini, il ne pratiquera plus, il ne pourra plus. Et à partir de là, le relais aux spécialistes se fait très bien, et les deux seront honorés, c'est normal.
Autre point, la télésurveillance médicale. Alors, l'image que nous pouvons en avoir et qui est véhiculée par les médias, ce sont ces petits bracelets que l'on peut donner à ces personnes âgées pour pouvoir connaître leur localisation ou alors pour avoir des numéros de téléphone en cas d'urgence. Est-ce que la télésurveillance médicale, ça se résume à ça?
C'est un acte de surveillance ou de suivi par un professionnel médical qui va interpréter les données de suivi. Donc, les données, par exemple, d'un ECG, un électrocardiogramme, que ça soit d'un oxymètre, que ça soit d'un glucomètre, et qui va être à domicile. Donc, c'est suivre, en fait, un patient à l'aide de matériel de surveillance, ni plus, ni moins.
C'est ce qui existe, alors j'ai cru comprendre, en Guyane, et puis également sur une île du Morbihan, l'île de Ediacara.
Oui, nous avons, par exemple, le SDIS-56, qui sont les pompiers du Morbihan, depuis des années, ont des valises de télémédecine, des kits SOS sur l'île d'Oedic. Vous avez Macha, qui est un chef de pompier et une infirmière, qui, au quotidien, je dirais, envoie les données par ses capteurs aux médecins colonels, que ce soit Dagnon ou Couverdiel ou Bruno Leblay, qui sont l'équipe de télémédecine de Vannes, qui reçoivent sur leur écran les données du patient. Et maintenant, la grande différence, c'est qu'avant, c'était elle qui disait « Envoyez-moi l'hélicoptère ». Plus maintenant. C'est le colonel, le médecin colonel qui dit « Wow, Macha, il va pas bien ton gars ». On t'envoie l'hélicoptère. Donc, c'est cela aussi le changement. Demain, vous aurez le médecin qui vous fera téléphoner pour dire « Il est temps que vous venez me voir ». Donc, c'est toute cette transformation qui fait partie de cette révolution du soigné. Vous savez, c'est un changement de société. Quand vous avez des grandes avancées technologiques, si on arrive à les conjuguer avec une volonté politique force, à ce moment-là, on fait une transformation de société. Et je pense qu'avec la télémédecine, avec la télésanté, c'est ce qu'on peut faire. Les maisons, là, pluridisciplinaires, eh bien, là, vous voyez, on commence à s'organiser. Vous comprenez bien que la prise en charge va se faire de mieux en mieux si on sait exactement à distance l'attention, le CG de la personne qui est chez elle. On est bien à l'hôpital, mais on est quand même mieux chez soi.
Mais Guy Vélancien, c'est une révolution ça en soi, ou certaines personnes pourraient penser que c'est un recul avec moins de contact entre le soignant et le soigné?
C'est pas vrai, je vous l'ai dit depuis le début. Au contraire, c'est un renforcement de la relation humaine, donc ce n'est pas du tout une désharmonisation. Mais vous savez, ça fait longtemps que ça existe. Je connais un médecin d'une des petites îles bretonnes qui, depuis belle lurette, utilise son portable. Il a un petit appareil de radio. Quand quelqu'un arrive avec une fracture, il prend la radio, il la prend en photo sur son portable et il envoie l'image au CHU. C'est aussi simple que ça.
Donc c'est donner des moyens supplémentaires.
Et en retour, on lui dit, écoute, tu plâtres ou envoie-le. Mais c'est d'une bêtise totale. Ce sont les moyens que nous utilisons tous les jours dans tous les autres domaines de l'activité humaine. Pourquoi est-ce que ça prend cette proportion insensée en médecine?
Donc c'est l'outil,
c'est l'outil. Et les jeunes,
depuis très longtemps.
Mais bien sûr, et les jeunes ont tout compris. Ils jouent avec ces outils-là sans aucune difficulté. Et la population qui est en train de vieillir, comme moi, elle est déjà habituée à ces outils. Donc bien sûr, les 85-90 ans sont perdus, mais ma génération sera dedans totalement. Donc nous serons nous-mêmes en relais. C'est même un lien social fantastique pour les gens âgés.
Mais regardez, dans ma famille, le professeur à la Joannine, à son époque, dans les années 50, moi je le voyais le samedi soir avec ses petites fiches et son téléphone faire du diagnostic à distance. Nous allons vers une banalisation. Mais attends, le train est en marche, il va peut-être falloir qu'il s'accélère parce que entre nous, on a une gestation de décision en cette matière qui est souvent un peu lourde.
Le vrai problème, c'est que télos, ça veut dire à distance. Alors on se dit, on va défaire le lien. Au contraire, c'est rapprocher les hommes, la télémédecine.
Absolument.
C'est le mauvais mot. On devrait faire de la pro-médecine. Voilà.
Alors, j'évoquais pour la télésurveillance médicale ces fameux petits bracelets dont certaines entreprises se développent, des petits bracelets pour que les personnes âgées puissent avertir leurs proches en cas d'urgence. Là, c'est de la télésurveillance, c'est de la télésanté. Ça rentre dans quel domaine?
Mais ça rentre dans tout. Attendez, c'est des domaines de technologie, de l'information, savoir où on est, savoir ce qu'on fait, comme vous le disiez, transmettre des éléments, c'est tout. Donc, il ne faut pas trop faire de cloisons. Hein, je veux dire. Et ça, c'est tout le développement alors aussi de la domotique. On est dans une révolution des tâches qui sont très aidantes. Le tout, c'est qu'on garde la relation humaine et que des jeunes viennent dans ces maisons de retraite pour égayer un peu les vieux. On le faisait quand j'étais petit dans les 6e étage de mon lycée. On allait voir les petits vieux une fois par semaine. C'est ça, il faut oublier que ces instruments, je dirais, réduisent la relation entre les hommes.
Alors, l'enjeu aussi, c'est de peut-être baisser les coûts de la santé. C'est un des enjeux très importants de cette télémédecine.
On les baissera si on arrive, par exemple, en maillant le territoire, c'est-à-dire en faisant en sorte d'additionner les commandes, d'avoir du volume. À ce moment-là, si on a du volume, on va intéresser les industriels qui pourront aller voir leurs banquiers en leur disant, vous voyez, il y a même 1000 pompes à morphine à distance, il y a l'appel d'offres qui va être lancé, je peux tout à fait répondre à cela. En France, à l'heure actuelle, on peut devenir leader mondial au niveau de la télésanté. On a été les pionniers, on peut tout à fait, à condition qu'on puisse faire une FIAT, hein, FIAT c'est le subjonctif de faire, c'est-à-dire une force d'intervention et d'appui à la télésanté, en attendant que les ARS se mettent en place pour après reprendre, j'oserais dire, le fonctionnement banalisé de la télémédecine. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut véritablement qu'il y ait de l'amorçage avec une force d'intervention et d'appui à la télésanté pour que très rapidement on aide les territoires à se mailler au niveau de la télésanté et arriver à faire en sorte qu'il y ait du volume.
Alors cette télémédecine, vous la voyez applicable d'ici 10 ans, 20 ans,
non,
30 ans ?
Elle y est déjà, ça va s'accélérer, notamment avec l'arrivée des jeunes médecins qui vont prendre ça à bras-le-corps en se regroupant, en travaillant ensemble et en ayant ces outils. De même que les cabinets mobiles vont se développer avec des téléphones satellitaires, parce qu'il y a encore des zones en France, quand vous allez au-delà d'Hirson, dans la Thiérache, il n'y a pas les bornes téléphoniques. Donc il faut des téléphones satellitaires. Ce n'est pas un problème, c'est un peu plus cher, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas un problème d'économie. Sachez bien que le pourcentage qui revient à la santé dans le produit intérieur brut ne fera qu'augmenter. Ce n'est pas ça le problème, c'est une organisation optimale de la prise en charge des patients, des populations dans les territoires. Mais ne croyez pas que ça va coûter moins cher, tout coûtera plus. Mais c'est normal, nous aurons à payer plus pour la santé comme pour l'éducation.
Néanmoins, regardez, dans le dossier de la dépendance, 22 milliards, Il faut savoir qu'une dépendance chez soi coûte mensuellement 1 800 euros, tandis que dans un établissement de santé coûte 2 300 euros. Vous voyez bien, automatiquement, dans ces 500 euros, qu'il y a de la place pour faire du diagnostic à distance, pour faire de la télémédecine. Ça, ce n'est qu'un aspect. Vous prenez les hospitalisations forcées, c'est-à-dire que si on arrive à avoir une meilleure prise en charge, plus judicieuse, grâce à cet envoi des données à distance, là aussi, on voit des économies énormes. Au niveau des dépenses de santé, je crois que c'est 215 milliards, les transports, c'est plus de 2%. Il ne s'agit pas de mettre, entre guillemets, je dirais tous les transports, il va y en avoir besoin, mais peut-être pour autre chose différent. Vous voyez que là aussi, il y a des économies, il y a de la gestion, de la déperdition à faire, mais je suis tout à fait d'accord avec le professeur. L'enveloppe globale des dépenses de santé, elle ne va pas diminuer. La population vieillit, c'est mathématique, mais par contre, il y a à l'heure actuelle à faire le IN, qui est l'hôpital, et on le sait bien, et le out, tout ce qui est nomade, etc. Dans le IN, tout ce qui est hôpital, il faut que l'hôpital soit l'extrême, mais avec des plateaux de plus en plus techniques et les gens de mieux en mieux payés, j'oserais dire. Et de l'autre côté, il faut valoriser, il faut aider l'ambulatoire et tout ce qui est nomade. En plus des médecins, sachez que les infirmiers sont très preneurs de tout ce qui est télémédecine. L'année dernière, la FNI, qui est la Fédération nationale des infirmiers, m'a invité pour ouvrir leur congrès national. C'est quand même 80 000 médecins. Vous voyez, il y en a 500 000, mais infirmiers.
Alors, pour terminer cette émission, on a abordé donc les enjeux, les espoirs, mais il y a aussi les limites. Alors, les limites à la télémédecine, c'est les politiques, c'est peut-être aussi le public qu'il reste à convaincre pour une partie. Guy Valencien, vous faites
malades.
Non.
Non, pas les malades. Non, non, vous savez, ça va très vite. Quand vous avez dans un village une personne qui a déjà été en contact comme ça avec un médecin qui a pu résoudre son problème, je peux vous dire que ça passe dans tout le village et tout le monde y va. Les politiques, pas du tout. Sachez que les maires sont extrêmement intéressés et poussent à fond, effectivement, au développement du haut débit et du très haut débit dans le plus petit village de France. C'est la clé du lien social de demain. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, je dirais peut-être les professionnels. Oui, effectivement. Un certain nombre de médecins ne comprennent pas toujours. Mais ça va venir. La jeune génération est prête. C'est tout. C'est la seule chose qui compte.
Mais ils vont y venir parce que les médecins sont des gens intelligents. Et en plus, je dirais, ce ne sont pas des gens, s'ils ont choisi ce métier-là, ce ne sont pas des gens matérialistes. Ils veulent du mieux-être pour leurs patients. À l'heure actuelle, est-ce que, par exemple, vous enlèverez l'outil Doppler pour le phlébologue? Il n'y a pas eu moins de phlébologues parce qu'il y a eu des Doppler. Il faut ces outils qui aident non seulement le personnel soignant, mais aussi les aidants, qu'on oublie bien souvent. Quand vous avez votre petite grand-mère, okay, que vous devez emmener à l'hôpital, qui va attendre 4 heures dans le couloir de l'hôpital pour qu'on lui prenne sa tension, elle aura passé une journée, elle aura pris, je dirais, de l'essence mise dans sa voiture, etc. Ça lui aura coûté énormément cher. C'est quand même mieux qu'elle puisse avoir sa prise de tension chez elle. C'est tout cela, cette révolution du soigné.
Et c'est aussi pour répondre, et on va vraiment terminer l'émission, c'est aussi pour répondre en partie à cette pénurie de personnel médical autre que médecin que la télémédecine pourrait voir le jour. Par exemple, vous parlez d'une petite grand-mère qui arriverait à l'hôpital et qui attendrait 4 heures avant de faire
il va y avoir des
c'est aussi pour des questions
oui,
de pénurie
oui, oui.
de personnel.
Il va y avoir des nouveaux, j'irais, des nouveaux métiers. Vous allez avoir, c'est bien évident, comme vous avez eu un métier d'une manipulateur, si vous voulez, en radiologie, vous allez avoir des nouveaux métiers, naturellement, qui vont aider à la télémédecine. C'est une évidence. Vous allez avoir le médecin et il aura des assistants qui iront avec une valise de télémédecine, un kit SOS, passer de maison en maison pour tenir en bonne santé, je dirais, ses concitoyens, ses patients.
Alors Guy Valencien, le mot de la fin, créer de nouveaux métiers, c'est je crois votre...
On en a déjà parlé ici. C'est évident, mais bien sûr que on est dans une révolution de l'organisation de la prise en charge des malades. La télémédecine n'étant qu'un outil. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers à créer qui vont prendre en charge les populations, tant pour la prévention que le soin, que l'éducation thérapeutique. Ça va se faire de plus en plus et c'est souhaitable. Donc, je ne suis pas inquiet. Il y a vraiment des gisements d'emploi considérables en matière sanitaire.
Eh bien, je vous remercie à tous les deux d'être venus nous expliquer le pourquoi du comment de la télémédecine. Et puis, donc, j'invite nos auditeurs à écouter les émissions que l'on peut retrouver en votre compagnie, Guylaine Lajoinine, et en votre compagnie, Guy Valencien. Merci à tous les deux et à bientôt. Au revoir.